Qu'est-ce que c'est ça, ce beau sourire-là, matin?
T'es-tu dernière minute avant hier?
C'est la machine à café.
Ah, OK, c'est la faute de la machine à café.
C'est que lorsque je me présente à la machine à café, c'est toujours la fin des shows du matin.
Oui.
Ce qui fait en sorte que les gars, pour se recharger, vont directement à la machine à café.
Oui.
Et là, moi, j'arrive, puis j'attends. J'attends.
Et le café est nécessaire pour faire l'open mic.
Le café pour moi, puis je sais pas pour vous autres, il y en a d'autres que ça peut être un beau grand verre d'eau. Là. Maudit que je vous trouve plate quand vous me dites ça. Un beau grand verre de jus d'orange, toujours un peu moins pire. Mais moi, c'est le café. Le café, là, c'est le premier rayon de soleil du matin.
Oh, ouais.
Vraiment.
Je pensais que c'était moi. La fille, elle s'attire des compliments le matin. Ben, je suis contente de te parler. Écoute, on s'est pas croisés encore. Toi et moi, on n'a clairement pas eu le mémo de la météo ce matin. Deux en coton ouaté. La moitié du staff ici est en robe et en short.
C'est parce qu'ils regardent pas la météo. Aujourd'hui, ce qu'on nous mentionne, c'est qu'il va pleuvoir. T'as même des risques d'averse cet après-midi.
Arrête.
On parle d'un maximum de 17. Des risques d'orage aussi cet après-midi, c'est ce qu'on nous mentionne. Ce soir et cette nuit, de la pluie intermittente avec un minimum de 7 degrés. Et pour ce qui est de jeudi, 8 mai, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. Des températures stables à près de 7 degrés. Passage nuageux en soirée, minimum de plus 2. Et vendredi, ben, ce sera nuageux avec un maximum de 10. Donc, techniquement, aujourd'hui, il est supposé pleuvoir. Mais tu sais quoi? Concentrons-nous sur ce qui se passe, sur le moment présent.
Oh. Il fait beau.
Ah, il fait beau.
Il fait soleil.
Il fait soleil.
Il fait chaud.
Hey, j'ai pogné un truc sur TikTok. T'es-tu sur TikTok des fois?
J'ai TikTok parce que la station a TikTok, mais je me promène pas beaucoup sur TikTok.
Non? OK.
Mais je suis au courant des trends parce que c'est souvent même qu'Instagram.
T'es au courant des trends?
Je suis au courant des trends.
T'es-tu... Hey, comment qu'on pourrait dire? C'est pas spirituel, c'est pas le bon mot. Mais t'es-tu croyant sur des trucs que les gens te sortent sur les réseaux sociaux, mettons?
Tu veux dire, est-ce que je suis influençable?
T'es-tu influençable? T'es-tu porté à essayer des choses des fois que tu te dis, ouf, là, c'est pas très scientifique, mais on va l'essayer pareil?
Je te mentirais de te dire que non, là. Oui, okay. Je peux être influençable. Je suis vulnérable en fin de soirée, tiens, je veux dire ça comme ça.
Ça, c'était les meilleurs au bord.
Je suis vulnérable.
Ah ouais, t'es vulnérable.
Ouais. Quand je suis fatiguée, mettons, là, puis que je suis tannée, là, puis là, je vais me mettre à scroller, puis là, je peux acheter toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport, puis je teste des trucs. Okay. Je suis très influençable.
J'ai pas encore poussé mes recherches très loin, mais j'ai pogné. Moi, TikTok, je suis pas très TikTok, sauf deux fois par jour.
Ah.
C'est des moments particuliers. Dans le temps, on remplaçait ça par un journal en papier. Là.
Ouais.
Mais là, maintenant, c'est...
T'es un vrai gars.
Voilà. Donc, je vais sur TikTok, puis j'ai pogné un truc. Puis je me souviens que j'avais déjà vu ça dans un film quand j'étais jeune. Y a-tu quelque chose de psychologique à ça? Ça a-tu déjà été étudié par des scientifiques? Mais ce que la personne disait, OK? Moi, j'ai des petits bracelets, là. Des bracelets que mes gars m'ont achetés,
ouais.
Là.
C'est en
des
petites
petits cadeaux en petites perles. Puis, ce que la jeune femme disait, puis je pense qu'elle avait eu... c'était une psychologue, là. Elle disait que tu peux te concentrer sur un objet, OK, sur
ouais.
ton poignet, puis tu peux y donner une image à cet objet-là. Mais il faut que tu fasses un geste pour ancrer cette image-là qui va faire en sorte que tu vas t'en rappeler tout le jour, à tous les jours.
OK.
Puis, je me souviens que dans un film, c'était pas comme une histoire de courage. Là. Donc, la personne avait donné un genre de bracelet au jeune enfant pour dire « quand tu auras besoin de courage, c'est exactement ce bracelet-là que tu dois prendre avec ton index et ton pouce. Tu tires dessus sur l'élastique, puis après ça, tu le relâches. » Puis, le tic que ça va faire, puis la petite douleur que ça va faire, tu vas associer ça à la notion de courage. Puis à chaque fois que tu vas avoir besoin de courage, puis là, je vous rappelle qu'elle parlait avec un enfant de 7 ans, là. Chaque fois que tu vas avoir besoin de courage, tu vas faire ça, et ça a l'air que psychologiquement, ça marche.
Mais c'est le principe des chiens.
Et si tu associes ça, exemple, à tes enfants, mettons, je sais pas moi, tu travailles, ça te fait chier, tu dis, Chris, me semble que je fais la pire job de la Terre, sauf que ma job me permet de nourrir mes enfants, ben tu l'associes comme ça,
mm-hmm.
avec ton bracelet. Puis à chaque fois que tu vas pas, pouf, avec ton bracelet, c'est comme un élastique, tu le pinces directement sur ton poignet, puis tu te dis « OK, ben finalement, je fais ça pour mes enfants. » Puis ça a l'air que tu reviens comme un peu plus « groundé » sur le moment présent.
OK.
Ça a-tu du bon sens?
Ben, ça fait du sens. Ben, moi, je le simplifie sous le principe de la punition ou de l'association chez les animaux, là. T'sais, tu vas associer un mot à une bonne action ou un mot. T'sais, le chien, tu vas dire assis, il sait qu'il va recevoir une gâterie.
OK.
C'est un principe d'association. Fait que oui, je te suis totalement.
Fait que ça pourrait être ça.
Oui.
Mais quand on parlera avec une psychologue, on y parlera de ça, du fameux ancrage là, avec un
puis là,
bracelet.
C'est quoi le lien avec TikTok, mettons?
Ben parce que la femme qui avait des études en psychologie, de ce que je comprends...
C'est là que t'as pogné ça.
Parlait de ça, parce qu'elle dit, pour ceux qui ont des bracelets, c'est une histoire de trucs magiques là, pour les enfants et tout ça. Fait que je trouvais ça le fun. Je trouvais ça le fun, mais j'y crois pas.
Moi,
donc, quand on jasera avec un psychologue ou un psychiatre, qui sait... Oui. On y demandera voir si cette fameuse méthode d'ancrage de beaux souvenirs ou d'ancrage de...
Si c'est une vraie affaire.
Pourquoi je fais ça dans la vie, tu sais? Ça peut... Y a-tu vraiment quelque chose de
mais
scientifique?
Je pense que oui, parce que j'avais déjà entendu pour les gens qui arrêtent de fumer, mettons, là, le jeu de l'élastique, puis c'est exactement le même principe. On dit aux gens de mettre un élastique autour de leur poignet, puis quand ils ont envie de fumer ou qu'ils ont envie de peu importe la mauvaise action, là, de sacrer, peu importe, ils doivent tirer sur l'élastique pour que ça snappe justement le poignet. Fait que c'est exactement le même principe.
C'est la même chose.
Je pense qu'il y a quelque chose de bon, scientifique est peut-être un grand mot, là, mais une association que ton cerveau fait, effectivement, ça, j'y crois.
OK.
On peut tellement jouer avec notre cerveau.
Oui, puis il y a tellement d'affaires. Tu sais, moi, je me souviens là, des légendes de grand-mère, puis des trucs de village. Ce matin, je lisais un article super intéressant. Bon, pas intéressant pour moi, là, sur le site de Radio-Canada. Ils ont fait une étude scientifique sur les sourciers.
OK.
Les gens qui étaient embauchés dans les villes et villages pour trouver les sources. Puis, ça se fait avec une baguette de bois en Y, là. Puis là, ben, la personne se promène sur ton terrain, puis elle te dit, la source est exactement là. OK?
Okay.
Il y a des gens qui ont gagné leur vie avec ça, comme t'as pas idée. C'est le sourcier du village, c'est le sourcier de la ville. Ça se fait un peu plus en région, tu comprendras.
Mm-hmm.
À Québec, quelqu'un qui se promène avec ça, on le rentre à l'asile. Là. Mais...
on pose beaucoup de questions.
Mais en région, il y a vraiment des gens qui sont considérés comme des sourciers, puis ils débarquent avec leur baguette de bois, ils se promènent sur ton terrain. Comment ça coûte? 100$, 150$, 200$, je le sais pas. Mais il semblerait, selon la légende, que ces gens-là ont un haut taux de réussite.
OK.
Et là, Radio-Canada s'est penché là-dessus, visiblement. Ils ont pogné une cinquantaine ou une centaine de sourciers. Eux autres, l'équipe de Radio-Canada, avec les scientifiques, ont caché des tuyaux dans le sol. Ils ont enterré les tuyaux. Puis après ça, ils ont fait promener les sourciers. Puis quand les sourciers avaient comme un coup de baguette vers le bas, là, qui disait « Ouh, il y a une source là », pas un coup de baguette vers le haut, pourquoi tu me regardes de même? Un coup de baguette vers le bas.
Oui. Je te suis, là.
Ben, le sourcier devait prendre un petit canard jaune puis le mettre sur l'endroit où la baguette a indiqué qu'il y avait un petit canard.
OK.
Puis c'est une fois sur deux. C'est l'équivalent d'un pile ou face. Donc, techniquement, sourcier ou pas, t'aurais pu t'improviser.
C'est un guess.
Ouais. Et là, ils vont continuer quand même à faire d'autres recherches, là, mais jusqu'à maintenant... C'est une fois sur deux où c'est une bonne réponse. Il y a une source proche, mais c'est pas toujours target directement.
C'est pas pile.
Non, c'est pas pile.
Fait qu'on croit en beaucoup d'affaires, finalement. On s'en invente.
Ben oui, mais je veux dire, la connaissance avance, évolue constamment. Là. Les études évoluent constamment. T'sais. Il n'y avait jamais regardé c'était quoi. T'sais, il y avait quelque chose de scientifique derrière la technique des sourciers.
Ouais.
Ben là, ils l'ont fait, puis ils se rendent compte qu'ils se trompent une fois sur deux. Puis c'est la même affaire si tu le fais avec ton 25 cents, en fait.
Je pense qu'il y a un gros effet placebo aussi qu'on a dans le cerveau quand on veut faire confiance ou quand on veut croire en quelque chose ou que quelque chose fonctionne. Je pense qu'on est bon à se convaincre nous-mêmes.
Ouais. On est bon à se convaincre nous-mêmes. Ah oui. On est bon à se convaincre. Mais, tu sais, les chiropraticiens, ça vient de où, ça, Audrey?
Ben, du monde qui craquait, là.
Du monde qui craquait.
Les ramancheurs.
Les ramancheurs. Puis à un moment donné, ils se sont dit, tiens, on va mettre en place un programme d'études. Ça va être un programme d'études universitaire. Tu vas pouvoir aller chercher ton doctorat en chiropraxie. Donc, tu deviens docteur en chiropraxie. Mais ça demeure que c'est pas une science. C'est pas comme la médecine, la chiropraxie. Donc, ça vient des ramancheurs qui étaient se promener de ville en ville.
Maintenant, c'est associé à la médecine, oui. Là.
OK. Mais est-ce que tu penses que c'est une science?
Mais ce que je pense que c'est une science. Maintenant, tu as des études, je veux dire, de la chiropratie, il faut que tu connaisses le corps, là. Mm-hmm. La bio du corps, je veux dire, c'est plus scientifique que ce l'était à la base du métier, on s'entend, là. Mais maintenant, je veux dire, oui.
Ça a longtemps été dans une pseudo-science. Là, maintenant, on l'appelle la médecine non conventionnelle, mais c'est pas la... t'es pas un docteur, comme un médecin, exemple.
Ouais.
T'es un docteur en chiropratie parce que c'est une médecine qui est non conventionnelle, mais ça vient des ramancheurs. Puis les ramancheurs sont rentrés dans la légende avec le bonhomme 7 heures.
Oui. Quand, tu en as déjà parlé de ça.
Quand, le bonhomme ramancheur arrivait chez papa, chez maman, les jeunes, fallait qu'ils se couchent à 7-8 heures le soir pour aller à l'école le lendemain. Puis là, quand ils replaçaient l'épaule à papa, quand ils replaçaient le bras à maman, quand ils replaçaient les articulations, il y avait des cris. Puis ça réveillait les enfants. Fait que les parents disaient...
On va te coucher, sinon le bonhomme 7 heures va venir te voir.
C'était le bone 7 heures.
Ouais.
Puis c'est, les gens, au Québec, on l'a repris comme étant le bonhomme 7 heures. Le bone 7 heures, le bonhomme 7 heures.
Mais moi, le bonhomme 7 heures a fait partie de mon enfance, là.
Ben, c'était le truc de tous les parents. Mmh. Moi, j'ai jamais fait ça.
C'est une drôle de technique, d'ailleurs.
J'ai jamais eu de... Ben, il y allait beaucoup par la peur. Mais moi, j'ai jamais eu de problème à coucher mes enfants. Fait que j'ai jamais inventé une histoire de bonhomme 7 heures. C'était tout le temps... T'auras pas de cellulaire demain si tu vas pas te coucher.
Ah, ben ça marche. Ça, c'est le truc 2024-2025.
Ouais. Les médicaments aussi, pour les maladies mentales, ça a été du essai-erreur très longtemps. Ben oui, c'est sûr.
Ben non, mais ça, c'est sûr. Puis encore aujourd'hui, il y en a qui ne jurent que par la naturopathie, exactement, qui vont prendre des extraits de plantes, des médicaments naturels, des la pharmacie est remplie de ça, là, mais il y en a qui ne jurent que par ça, mm-hmm. puis qui veulent rien de chimique dans leur corps, là. Il y en a qui vont régler des gros problèmes par l'alimentation aussi. Il y a une... Maintenant, il a été vendu à quelqu'un d'autre, de ce que je comprends, mais l'ancienne propriétaire du Éco-Café en bas où on travaille,
oui.
J'ai eu beaucoup, beaucoup de discussions avec elle, puis elle, à un moment donné, elle a eu des gros problèmes de santé. Puis elle faisait, entre autres, de l'arthrite rhumatoïde. Puis ça fait comme en sorte que tes articulations, Yann, se replient sur eux-mêmes. Fait qu'à un moment donné, tu comprends, t'es plus fonctionnel à plein de
Est-ce
niveaux.
Est-ce qu'ils leur mettent des attelles?
Non, souvent tu finis en chaise roulante, là. Dans le sens que ton corps, tu peux même tu mets des attelles, ton corps,
plie,
il... Ouais, mais t'es plus... C'est comme si, mettons, tes doigts sont plus fonctionnels, t'es plus... Même si tu mets des attelles, je veux dire, tout gèle, tout se
Parce que j'ai déjà vu ça, c'est un genre de poignet qui se revire par l'intérieur, puis après ça, il rentre en dessous du bras, là.
Ouais.
Je me semble que je serais porté à mettre des bouts de bois.
Puis, écoute, tu peux...
Tout taper ça.
C'est... Non, mais c'est une analyse comme une autre. Ouais. Mais l'alimentation, elle, avait réglé beaucoup de choses au lieu de gros traitements médicaux.
Ouais.
Tu sais, l'alimentation méditerranéenne, là, tout ce qui est anti-inflammatoire, tout ce qui est... Puis il y a beaucoup de gens qui pratiquent encore là-dessus en se disant comme, ben, avant, il n'y en avait pas de médecine, puis on était capable de s'autosuffire sur plein de choses. Là.
Ouais. Ce qui nous ramène au petit bracelet. J'ai vu ça passer sur TikTok. Je pensais que c'était comme une légende. Là. Mais j'avais déjà vu ça dans un film pour enfants. Puis toi, ce que tu me confirmes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans.
Ben, tu sais, moi, je me suis fait dire par une IPS que j'ai consultée dans les derniers mois qu'on avait un gros pouvoir sur ce qu'on fait faire à notre tête. C'est-à-dire que, tu sais, puis c'est en quoi tu crois au quotidien en fait preuve un peu, mais dans le sens que on a un contrôle sur, mettons, la sérotonine que va dégager notre cerveau au quotidien. C'est l'hormone du bonheur, là.
Ouais.
Dans le sens que tu es capable de te répéter des affaires positives chaque jour qui fait que ton cerveau va être entraîné à penser de façon positive et non négative. Fait que pour moi, que tu me parles d'une association à un comportement, ben je trouve que ça fait vraiment du sens, là. Et c'est la psychologie de deux scènes en même temps.
Ouais. Quelqu'un qui dit le meilleur médicament quand on est en couple, Audrey, c'est du Dicomel et du Pense-Comel que tu peux l'acheter à la pharmacie.
Franchement.
Quoi?
C'est vraiment pas drôle.
C'est le Dicomel et le Pense-Comel. C'est deux fois par jour, puis ça a l'air que la relation de couple va beaucoup mieux.
Mais oui. Voir si les filles, c'est ce qu'on cherche, quelqu'un qui nous contredit pas, qui dit toujours oui, qui... On a besoin d'être challengé.
Eh oui, on a besoin d'être challengé.
C'est une fausse pensée, ça.
Parlant d'être challengé, aujourd'hui, on a un gros show.
Un énorme show. En fait, deux invités, c'est rare qu'on fasse ça dans l'open mic, mais on va commencer avec Nicolas Saint-Jacques, qui est vice-directeur du projet Innocence. Projet Innocence, en fait, c'est un organisme qui aide les gens au niveau, mettons, judiciaire, à se sortir de des peines imposées qui sont fausses. Finalement, on a vu un article dans le journal avant Noël d'un homme qui s'appelle Claude, qui lui a été faussement accusé de meurtre. Il a passé 18 ans, si je ne me trompe pas, en prison, puis après ça, genre 23 ans, libération conditionnelle avec comme plein de, 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 de comment on appelle ça?
De restriction. On a eu Yves Colosse Plamondon à Québec, au centre-ville de Québec, qui a été incarcéré pour des meurtres qu'il n'a jamais commis. À tous les ans où il était éligible à une remise en liberté, on lui disait « Est-ce que vous êtes finalement responsable des crimes dont on vous a déclaré coupable? » Puis
fou,
il avait
là.
Toujours dit « Non, je n'ai jamais tué ces deux individus. » Puis à un moment donné, ben, on s'est rendu compte que c'est pas lui qui les avait tués, mais il a passé 27 ans en prison.
Mais tu sais, le cas de Claude Paquin, lui a été accusé du meurtre de sa femme puis d'un homme. Il a été jugé à tort en raison d'un témoignage fautif en cours. Puis c'est ça, 18 ans en prison puis 23 ans en libération conditionnelle sous de sévères conditions. Puis le projet Innocence, en fait, a réussi à prouver justement qu'il n'avait jamais commis ces crimes-là. Fait que récemment, dans les derniers jours, Claude Paquin a entamé une poursuite pour demander 64 millions de dollars en dédommagement. C'est la plus longue erreur judiciaire, en fait, de l'histoire du Québec, là, au niveau du temps. Fait qu'on va parler ce matin avec Nicolas Saint-Jean, qui est vice-directeur du projet Innocence, à savoir comment ça fonctionne, le nombre de cas qu'ils ont réussi à régler. Moi, je trouve ça super fascinant. Puis on va parler aussi avec le directeur de la sécurité civile de la Ville de Québec, Martin Bolduc, qui va être accompagné aussi de la chef coordonnatrice en sécurité civile, Josée Bérubé. Puis on va parler, bon, c'est la semaine de la sécurité civile, là, mais c'est des métiers qui y sont associés, puis des impacts du citoyen, etc., etc. Fait que grosse émission ce matin.
Très cool! Jérôme 50, qui était de passage dans nos studios hier matin avec la belle gang de Rage Against le matin. D'ailleurs, l'entrevue est disponible sur nos diverses plateformes. Allez voir ça, allez écouter cette entrevue-là. C'est une excellente entrevue. Puis ben, nous, on vous le présente ce matin en musique. Jérôme 50, Les Doubles sur Boulevard.
On s'est déjà frenché en 2007, dans le sous-sol chez tes parents à l'ancienne lorette. Pendant une partie de Twister au ballon de bouteille, t'es comme ton Joker du Ardennes, t'allais à merveille. Mon mec savait le même, c'est quoi le problème? Si tu pareil au même, qui c'est de même? Ouais, y'a pas grand monde à qui t'a pas déjà donné de bec. Dans le tout petit lit doublé de Québec. La 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 la. Tu qu'on s'est déjà touché dans un taxi après le show d'avril avec au Colisée Pepsi. Puis à la part de ta cousine derrière la pyramide, pendant que ton chum était sur un bad trip d'acide. Je l'ai revu d'ailleurs, il était ma belle-sœur. Elle lui a brisé le cœur, c'est bien valeur. Mais pour chaque fille, il y en a un million de
Trippin' Show.
On vous parlait de la météo tout à l'heure avec Audrey. Ça n'a pas changé. Il reste encore du soleil, Audrey. Tu as le temps encore d'en profiter.
Ben c'est ça. On va faire le plein parce que tu dis que cet après-midi, il annonce des orages.
Ouais, mais tu vois, on a dépassé le maximum qui était prévu. On avait quoi? 17 comme maximum aujourd'hui. Puis on est rendu autour de précisément 19 degrés.
Il fait chaud en motadine.
Effectivement.
Faites le soin avec mon coton water à matin.
Avec nos gilets capuchons, on fait ouais. Un peu contraste à la station. Mais quand on va sortir tantôt, parce qu'on nous parle d'orages possibles cet après-midi, ben, tu vas être content.
Oui.
Tu vois, tout sur place.
Oui, mais la vérité, c'est que j'ai vraiment pas regardé la météo. Là. J'ai pas fait d'effort.
Non, t'as pas regardé la météo, tu savais pas quel jour on était.
Non, je suis visiblement très perdu ce matin, pareil. Là,
tout va bien.
Je pensais qu'on était mardi.
Pour ce qui est de demain, ce sera nuageux avec des probabilités d'averse à 40%. Passage nuageux en soirée, minimum de plus 2 degrés. Et vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 10. Mais comme hier, la bonne nouvelle de la semaine, c'est que ce week-end, ce serait plein soleil, donc ensoleillé, maximum de 19. Ensoleillé aussi pour dimanche avec un maximum de 16. Pour nous joindre en studio, s'il se passe quoi que ce soit, les amis, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Avant la pause, on vous en parlait un peu. On parlait du cas de Claude Paquin, qui est accusé du meurtre de sa femme et d'un homme qui a été jugé à tort en raison du témoignage fautif d'un caïd. Il a été incarcéré pendant 18 ans, les amis, puis il a passé 23 ans en libération contre sous de sévères conditions, alors qu'il n'y avait pas tué personne.
Imagine-tu comment c'est épouvantable le temps qu'on t'a volé?
Vraiment, vraiment, quelle histoire. Et heureusement qu'il y a un organisme qui existe au Québec depuis plusieurs années, qui est tenu à bout de bras par des bénévoles, des avocats qui travaillent extrêmement fort semaine après semaine pour libérer des gens qui sont innocents et qui ont été déclarés à tort coupables. On a le plaisir de jaser avec la belle gang du projet Innocence. C'est Nicolas Saint-Jacques, Maître Nicolas Saint-Jacques qui est avec nous. Merci, M. Saint-Jacques, d'être avec nous ce matin.
Merci de m'accueillir, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Projet Innocence, c'est un projet d'éducation que lorsque vous étiez à l'université, vous vous êtes dit, tiens, on va partir ça?
Ben, c'est pas moi qui l'ai parti. En fait, c'est ma conjointe à l'époque. C'était en 2002.
C'est elle qui vous a mis dans le trouble de même.
C'est ça. Ben, c'est drôle, hein, mais c'est un peu vrai, dans le fond, parce que moi, je connaissais pas ça à l'époque. J'étais étudiant en droit à l'Université du Québec à Montréal. Puis
Ouais.
elle aussi était étudiante en droit. Puis elle s'est dit, ben, dans le fond, ça existait un peu ce programme-là, mais aux États-Unis, puis dans le Canada anglais. Puis elle se dit, ben, au Québec, il n'y a rien. Puis une personne qui veut, disons, faire reconnaître, dans le fond, qu'elle est innocente, et puis. Elle s'adresse à qui? Puis elle parle en français. Faut qu'elle s'adresse à des avocats de Toronto qui généralement parlent plus en anglais. Il manque quelque chose au Québec. Donc elle s'est dit, ben moi, je vais partir ça. Mais là, elle était étudiante en droit, fait qu'elle ne pouvait pas représenter des clients à l'époque. Donc, elle est allée chercher une avocate de l'aide juridique pour monter ce projet-là à l'UQAM. Et tranquillement, pas vite, ça s'est bâti. Moi, à l'époque, je n'étais pas impliqué, là. C'est pas moi qui a eu la brillante idée de faire ça. Puis par la suite, ben, on a commencé à se fréquenter plus tard, là, quand on a été à l'école du barreau, et puis au début de notre pratique. Puis là, elle m'a dit, ben, ça tente-tu de t'impliquer? Puis bon, l'amour est l'amour. Évidemment, j'ai pas dit non. Puis c'est ça, ben, 16 ans plus tard, ben, je suis encore dans le projet Innocence. Et puis elle a quitté le projet Innocence parce qu'elle a été nommée juge. Et puis donc, c'est moi qui ai repris la barre là, de l'organisme.
Elle était nommée juge, c'est-tu elle qui mène à la maison? Est-ce qu'elle vous a...
Ah, ça, ben, en fait, j'aime mieux pas répondre à cette question-là au cas où elle écoute.
Chérie, je t'ordonne de.
Ah, c'est ça, c'est
OK.
ça.
Hey, on va parler du projet Innocence dans son ensemble. Vous avez contribué à faire libérer des innocents qui étaient en prison depuis des années. Combien d'individus touchés à peu près depuis le début de
Oui.
projet Innocence?
Oui, donc il faut comprendre que le projet Innocence, on intervient vraiment de façon limitée, dans le sens que nous, ce qu'on fait, c'est on intervient lorsque les personnes ont épuisé tous leurs recours judiciaires. Donc, ils sont allés à la Cour supérieure, à la Cour d'appel, à la Cour suprême du Canada, et là, on intervient. C'est vraiment là qu'on va intervenir. Donc, on a évidemment travaillé sur des dizaines et des dizaines de dossiers, je vous dirais des centaines, là. Mais ultimement, il y a très peu de dossiers qui vont cheminer à travers tout ce processus-là et qui vont permettre une libération de la personne. Donc, au total, en date d'aujourd'hui, on a eu trois cas vraiment qu'on a réussi à terminer. Il y a un cas qui n'est pas tout à fait terminé, qui va être devant la Cour d'appel du Québec, à Québec, justement. C'est un cas qui vient du district de Québec et je vais le plaider justement le 3 juin. Mais on a réussi à avoir des ordonnances du ministre de la Justice pour avoir des nouveaux procès ou avoir des acquittements ou la Cour d'appel du Québec, là, dans trois cas. Donc, il y a trois hommes, là, vraiment qui ont été innocentés ou à tout le moins là, qu'on a pu mettre un baume sur leur tragédie. Puis évidemment, il y en a d'autres dossiers comme le cas de Daniel Jolivet que vous avez peut-être entendu parler, qui est très médiatisé pour une affaire de quadruple meurtre. C'est un dossier sur lequel on travaille depuis plus de 18 ans, mais c'est un dossier qu'on croit qu'on n'a pas réussi encore, mais on voit une lueur d'espoir, puis on travaille toujours là, bénévolement dans son dossier pour s'assurer là, qu'on puisse le sortir de prison. Mais c'est ça. Donc, puis il faut comprendre aussi que le projet Innocence, ce qu'on fait, c'est qu'on a une intervention plus générale aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont s'adresser à notre organisme, puis ils vont dire, ben, écoutez, moi, je suis victime d'une erreur judiciaire. Puis là, on va dire, ben, OK, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et là, ils vont nous expliquer, ben, j'ai pas épuisé mes recours, j'ai pas vraiment de nouvelles preuves, j'ai pas. On va dire, OK, ben, on peut peut-être pas vous aider directement, mais voici des pistes de solutions, voici vers quel organisme vous devez vous retourner, voici des noms d'avocats, voici. Donc, on a une intervention aussi, des fois, qui est d'accompagnement envers des personnes qui ne savent pas à qui s'adresser. Donc, il y a des gens qui sont un peu perdus dans le système judiciaire. Donc, on est un peu là pour les amener un peu
Supporter.
vers le droit chemin. Ouais.
C'est une drôle de question, Maître Saint-Jacques, mais comment vous faites? Parce que je me dis, un coup que tu as passé à travers, mettons, un procès, que tu es allé en cour supérieure, cour d'appel, il me semble que tu as déjà épuisé justement toutes tes ressources. Qu'est-ce que vous pouvez amener de plus, en fait? C'est quoi le travail concret que vous faites?
Oui, c'est une bonne question parce que souvent, les erreurs judiciaires vont se régler, effectivement, à travers tout ce processus-là. Donc, mettons, il y a une condamnation qui est injustifiée, bien, en cours de route, elle va être corrigée. Donc, il va y avoir un cours supérieur, un cours d'appel qui va corriger la situation. Nous, on intervient vraiment plus tard et donc, là, souvent, il s'est écoulé 7, 8, 9, 10 ans de temps là, avant que nous, on intervienne dans le processus. Donc là, ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des dossiers où on se rend compte que, par exemple, la divulgation de la preuve n'avait pas été faite correctement. Donc, vous vous rappelez, en droit criminel, dans le fond, lorsqu'on a un procès, bien, la procureure, la couronne et les policiers, dans le fond, doivent amasser la preuve qu'ils vont déposer dans le cadre du procès, mais également la preuve qu'ils ne vont pas déposer. Donc, tout ce qui est un élément d'enquête, ils doivent le dire à la défense. parce qu'on veut s'assurer que la défense ait un procès équitable. Et nous, ce qui arrive des fois, c'est qu'on arrive 10 ans plus tard et on se rend compte que, oups, il y a des choses qui n'ont pas été divulguées. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, il y a plusieurs façons, là. Des fois, c'est des avocats qui vont nous le dire. Des fois, c'est le client qui va nous dire, écoutez, moi, à l'époque, jamais on m'a parlé de telle affaire. Là, on va questionner l'avocat de première instance, on va faire des demandes d'accès à l'information, puis on va obtenir de l'information, on va découvrir qu'il y a des pistes d'enquête qui n'avaient pas été révélées à la défense, ou carrément, on va découvrir des nouveaux témoins. Donc, je donne un exemple qu'on a eu là, il y a une dizaine d'années à peu près. On a une personne qui avait été déclarée coupable d'agression sexuelle sur son demi-frère. Et puis, le demi-frère est venu cogner à la porte du projet Innocence, essentiellement pour dire, ben moi, à l'époque, ce que j'ai dit à la police quand j'avais 7 ans, c'était pas vrai.
Oh
C'était
mon
pas
Dieu.
vrai, je n'avais pas été agressé par mon demi-frère. Et ce qui était particulier, c'est que le demi-frère, qui était notre client, ben lui, avait plaidé coupable à l'infraction, même s'il ne l'avait pas faite. Il était tellement convaincu qu'il allait avoir une peine plus grave s'il continuait le processus, qu'il préférait plaider coupable, puis éviter le plus possible les conséquences. Mais imaginez-vous vivre avec cette accusation-là sur les épaules, faire des thérapies pour vous dire vous êtes un agresseur sexuel, vous devez corriger votre problème alors que vous ne l'avez pas fait. Donc, ça a été dévastateur, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Tu sais, des fois, c'est un hasard. Quelqu'un vient cogner à notre porte, puis, oups, c'est une nouvelle preuve, puis là, on part le processus.
Essaye d'expliquer ça à ta conjointe que t'as fait de la prison parce que t'as plaidé coupable d'avoir agressé ton frère, mais dans le fond, c'était pas vrai. T'sais.
Mais voyons,
T'as
ça
plaidé
passe
coupable, mais
pas,
dans le fond,
c'est
c'était pas
ça.
vrai. Ça doit être assez complexe. J'ai plein de questions à vous poser, Maître Saint-Jacques, parce que si on va faire un tour au centre de détention de Québec, là, ou dans les pénitenciers fédéraux, c'est rempli de personnes qui n'ont jamais rien fait, qui sont innocents. Ça doit être complexe, des fois, de trouver le petit point ou la petite virgule qui n'a pas été mis à la bonne place pour dire, OK, c'est beau, on travaille là-dessus. Mais de l'autre côté, est-ce que vous devez absolument avoir confiance à 100% envers votre client qui dit, Maître Saint-Jacques, je n'ai jamais fait ce pourquoi j'ai été déclaré coupable? Ou pour vous, ce qui est important, c'est que les droits de votre client soient respectés?
Oui, c'est une bonne question. C'est certain que dans le cadre du projet Innocence, puis là, je mets à part un peu ma pratique sur le côté, dans le cadre du projet Innocence, évidemment, on veut s'assurer que les droits soient respectés. On veut s'assurer que la personne a eu un procès juste et équitable. Mais généralement, on va prendre des gens qui vont nous dire effectivement qu'ils n'ont pas commis l'infraction. Puis pourquoi? Parce que vous comprendrez que quand on prend un dossier comme, mettons, M. Paquin, ben, c'est une dizaine d'années de travail. Et là, j'ai des étudiants en droit qui vont m'accompagner, dans le fond, qui vont à l'université, qui nous accompagnent à chaque session. On a des bénévoles, c'est toutes des heures et des heures incalculables, là, quasiment. Là. T'sais, on parle des fois des centaines d'heures, des milliers d'heures dans un dossier. Donc, c'est certain que quand on a un dossier du projet Innocence qu'on adopte de manière bénévole, on veut s'assurer quand même que la personne, la première chose, nous dise, ben moi, je n'ai pas commis l'infraction. Maintenant, on n'aura jamais une certitude de est-ce que la personne nous dit vrai ou non, parce que ce n'est pas notre rôle non plus de déterminer avec certitude. Cependant, on se rend compte quand on bâtit un dossier d'erreur judiciaire qu'il y a plusieurs éléments qui ne fonctionnent pas. Et souvent, cette personne-là va maintenir sa version de ne pas avoir commis l'infraction, alors que c'est un peu contre-intuitif de le faire, parce que pour elle, peut-être qu'elle pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle en admettant la commission de l'infraction et en bénéficiant des programmes, en réduisant sa cote de sécurité et éventuellement avoir une libération. Et là, on voit une personne qui nous dit, ben, je suis innocent, je ne vais pas reconnaître le crime, je préfère rester en détention jusqu'à la fin de mes jours. Donc ça, c'est toujours un bon indicateur de savoir, ben, tu sais, pour qu'une personne nous dise ça, là, puis qu'elle préfère mourir en prison, il faut qu'elle soit convaincue de son innocence, parce qu'autrement, c'est pas le raisonnement d'une personne normale,
Non, parce que,
autrement.
exactement, parce que, exemple, mon premier réflexe aurait été de dire, OK, ben si je reconnais mon crime, je vais sortir plus tôt, puis si je reconnais pas mon crime, ben là, je vais rester en prison jusqu'à temps qu'il évalue que je sois plus un danger pour la société, peu importe si je l'ai fait ou si je l'ai pas fait. Mais, tu sais, un cas comme on a à Québec, les Yves Colosse Plamondon, qui n'était pas un enfant de cœur, soit dit en passant, là, pour ceux qui l'ont connu et qui ont entendu parler de la légende Yves Colosse Plamondon, passé 26-27 ans de sa vie en prison, puis
Oui.
après un certain temps, il y avait des possibilités de passer devant une commission pour des possibilités d'être remis en liberté. Puis à chaque fois, il disait non, je n'ai pas commis ce crime-là, non, je n'ai pas commis ce crime-là. Puis il retournait en prison. Le réflexe d'une personne normale aurait été, garde. Ça fait 25 ans, je te cite sacrement. Là. Oui, c'est correct, je suis coupable, là, puis je veux revoir la lumière du jour. Pour lui, il avait toujours refusé ça jusqu'à temps qu'on réussisse à le faire sortir de prison parce qu'on avait prouvé qu'il y avait quelqu'un qui avait menti dans le dossier, qui avait mené à sa condamnation. Puis aujourd'hui, ben, il vit sur la rive sud de Québec. Puis, mais c'est 26 ans, 27 ans de ta vie qu'on t'a
c'est
volé.
Énorme,
combien ça vaut pour M. Paquin qui a passé des années en prison? C'est 18 ans qu'il a été incarcéré, puis il a 23 ans en libération conditionnelle. Sous de sévères conditions. Ça vaut combien, ça, le prix d'une vie, si on met ça monétaire?
Ouais, c'est inestimable. Là. C'est ça qui est un peu un problème, toujours, là, d'arriver à un montant en dommages-intérêts. Puis bon, je ne suis pas un avocat en civil, là, que je fais du droit criminel, mais essentiellement, il y a la question de la faute. Est-ce que, bon, elle a causé des dommages? Donc, est-ce qu'on est en détention pendant un certain nombre de temps alors qu'on n'aurait pas dû l'être dans les faits? Après ça, il y a le dommage punitif qui vient avec ça. Il y a également. Donc, une perte également au niveau des gains monétaires que la personne aurait pu faire alors qu'elle est en prison, elle n'a pas pu travailler, par exemple. C'est sûr que quand on regarde la jurisprudence, ce qu'on voit, c'est qu'une journée de prison vaut à peu près 8 000 $ dans les courtes détentions, si on veut. Donc là, c'est difficile de vraiment faire un calcul mathématique là, avec tout ça, mais que dans le cas de M. Paquin, par exemple, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a une poursuite civile présentement qui est en cours, mais ce qu'il demande, c'est 64 millions de dollars au total. Ça peut paraître gros, mais en même temps, quand vous calculez 18 ans de prison à 8 000 $ par jour de détention, puis quand on regarde ça, on dit, bien, est-ce qu'une personne raisonnable là, voudrait aller passer une semaine en prison pour 8 000 $ par jour? Bon, tu sais, c'est quand même, quand on regarde ça, une personne se fait arracher sa vie là, pendant tout ce temps-là. Puis on se dit, ben c'est difficile, je vous dirais, à concevoir comment avant, je pense, sans l'avoir vécu, là, je pense que c'est très difficile de discuter de l'impact psychologique, l'impact sur une vie humaine, de se voir arraché de la société alors qu'on n'a rien fait. Puis, tu sais, quand on y pense, là, c'est un peu une espèce de cauchemar éveillé, là. Et moi, j'ai des clients qui me disent ça. Là. Ils disent, c'est, tout le monde vous dit que vous êtes coupable. Le juge vous dit que vous êtes coupable. La procureure de la couronne vous dit que vous êtes coupable. Les témoins disent que vous êtes coupable. Tout le monde vous regarde. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est un mauvais rêve dans lequel je vais me réveiller à un moment donné?
Même ta propre famille doute de toi. Puis vous parlez bon, d'un 8 000 $ par jour que ça pourrait valoir être incarcéré quand on est innocent. Je me souviens d'une cause qu'on a eue à Québec. Je pense que je vais l'appeler l'affaire Marshall. Là. Je ne veux pas le débaptiser. Ouais. Je ne me souviens pas de son prénom. Mais Marshall était vu comme étant l'agresseur de Sainte-Foy, l'agresseur sexuel de Sainte-Foy. Puis il y avait eu plusieurs victimes dans son dossier. Puis il y a eu des enquêteurs de Québec qui voulait absolument pogner ce gars-là. Puis à un moment donné, ils sont tombés sur un gars qui, entre les deux oreilles, ça fermait pas étanche. Puis le gars avait tellement besoin d'attention durant l'interrogatoire qu'il dit « Oui, c'est moi qui l'ai fait. Oh, oui, c'est moi qui l'ai fait. » Puis les enquêteurs n'ont pas décelé que ça fermait pas étanche. T'sais. Puis ils n'ont pas été plus loin. Et le gars s'est ramassé en tôle. Puis c'est là où on va se rejoindre Maître Saint-Jacques. Le gars s'est ramassé en tôle. Puis en dedans, c'est pas facile la vie pour un agresseur sexuel de femme ou d'enfant. Là. Le gars s'est fait agresser sexuellement à l'intérieur des murs. Ce qui fait en sorte que quand toute l'affaire a été révélée, comme quoi, non, le gars s'était déclaré coupable, mais il l'était pas. Bien, le gouvernement préférait s'entendre à l'amiable avec lui en disant « Écoute, regarde, on va te donner ce montant-là. » C'était plus avec la famille, mais on a donné plusieurs millions à Marshall, plus à sa famille, pour être sûr et certain d'enterrer tout ça. Mais c'est un fiasco monumental. Mais pour monsieur Paquin, au niveau psychologique, ça ne devait pas être facile. Au niveau physique, bon, je ne sais pas quelle forme il a, mais c'est les traumatismes qu'on a. Si on s'est fait agresser à l'intérieur des murs alors qu'on était innocent, tu sais, il n'y a rien de plus ignoble que ça.
Ouais, dans le cas de M. Paquin, même, je vous dirais qu'il a été poignardé à l'intérieur des murs. Là. Tu sais, puis quand on regarde son parcours, M. Paquin, c'est quelqu'un qui a eu une vie dans un contexte très défavorisé. Là. C'est quelqu'un qui il a pas eu facile quand il était petit. Puis c'est un peu ça, il est tombé dans le crime, dans une organisation criminelle. On a pilé, évidemment, on a profité de lui là, à travers tout ça. Puis finalement, il a mis deux crimes sur le dos. T'sais, c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est une tragédie. Quand on relit l'histoire de M. Paquin, c'est très difficile à lire parce que c'est une tragédie de la première journée quasiment de sa vie jusqu'à aujourd'hui, qui a 82 ans. Puis là-dedans, on a volé 41 ans de son existence.
Est-ce que vous tempérez l'espoir de vos clients? Parce que j'imagine que ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez réussir à les sauver, là.
Oui, c'est une bonne question. C'est sûr qu'on aborde ça rapidement avec les clients parce que, bon, il y a une question, est-ce qu'on va réussir? Ça, c'est la première question. Effectivement, il y a très peu de cas qui vont réussir. Mais dans l'ordre des choses actuelles, il y a à peu près un dossier d'erreur judiciaire qui est reconnu à travers le Canada par année. Donc, ça vous donne, là, c'est pas
C'est pas beaucoup,
facile
hein?
d'arriver là. C'est appelé à changer, là, mais puis. Bon, puis en plus de ça, non seulement il n'y a pas beaucoup de chances de succès, mais en plus, c'est un très long processus parce que nous, de notre côté, on doit reconstituer un dossier qui souvent date de plusieurs années. On a des papiers éparpillés un peu partout. L'ancien avocat en a un petit bout. Il y a quelqu'un d'autre qui en a quelque part. Donc, ça devient très compliqué de ramasser tout ça. Après ça, découvrir des nouveaux éléments de preuve, rencontrer des témoins. Tu sais, c'est tout un processus. Et là, on envoie ça au ministre de la Justice. Et éventuellement, ça prend plusieurs années d'avoir le ministre de la Justice avant qu'on ait une réponse. Fait que quand on parle à la personne, on dit oui, premièrement, il y a très peu de chances. Mais en plus, c'est un très long processus. Est-ce que vous êtes prête à vous engager là-dedans? Puis là, on a des gens qui sont en détention, qui pour eux, peut-être, c'est plus logique de le faire parce qu'ils sont en détention à ce moment-là. Mais il y en a d'autres personnes qui sont à l'extérieur des murs, qui sont en libération conditionnelle. Puis là, il dit, oui, j'ai le goût de passer à travers le processus, mais tu sais, c'est un processus de peut-être 5, 6, 7, 10 ans, donc durant lesquels on ne tourne pas la page, tu sais, parce que ces gens-là vivent dans ce processus encore-là de, je dis, je vais réussir à démontrer mon innocence. Donc, c'est quand même lourd de, comment dire, de conséquences de s'embarquer dans ce processus-là, alors que les chances sont petites et que le processus est une très, très, très longue journée.
Le gouvernement essaie-tu de faire des deals rapidement pour justement que ça soit pas trop médiatisé, que ça se rende pas en cour, qu'on connaisse pas le fameux montant qui est octroyé à la victime du système? Parce que dans le cas de Marshall, ça a été ça. C'est le gouvernement qui s'en est mêlé en disant non, ça ira pas en cour, on a fait vraiment une erreur, puis ça va être meilleur pour nous autres si on fait une entente hors cour que si on va en cour direct. Est-ce que le gouvernement arrive très rapidement dans la cause de M. Péloquin? Est-ce que de M. Paquin, pardon, est-ce qu'il est arrivé rapidement ou vous n'avez pas encore entendu parler?
Ben là, je peux peut-être pas rentrer dans cette discussion-là, mais ce que je peux dire de façon générale, c'est que le système d'indemnisation au Québec, il repose sur ce qu'on appelle le factual innocence. Donc, dans le fond, l'innocence factuelle, là, qui peut être une mauvaise traduction, là, mais essentiellement, il faut démontrer qu'on est innocent. Donc, si c'est le cas, là, il y a un système d'indemnisation automatique du gouvernement. Autrement, il faut poursuivre le gouvernement. Donc, dans ces cas-là, il faut envoyer une mise en demeure au gouvernement. Éventuellement, si on répond pas ou on répond qu'on va rien faire, ben là, il y a une poursuite qui est déposée. Dans le cas de M. Paquin, par exemple, elle est déposée, sa poursuite, depuis ce lundi. Et donc, on va voir la réaction là, du gouvernement pour la suite des choses, mais évidemment, je ne peux pas, malheureusement, commenter, étant donné que c'est une action en justice présentement. Mais bon, c'est ce que je peux dire pour le moment. Je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est devant les tribunaux.
Maître Saint-Jacques, vous le savez, j'ai pas le choix de m'essayer. Il faut que j'essaie de tirer les questions. Hey, Maître Saint-Jacques, comment on fait pour financer un projet Innocence comme ça? Vous travaillez quoi, un 15, 20, 25 heures par semaine pendant des années pour faire sortir votre client de prison parce qu'il est innocent, il est victime d'une erreur judiciaire? Comment on fait pour financer ce type de projet-là? Pourquoi le gouvernement ne vous octroie pas un certain montant par année pour faire travailler, exemple, des jeunes qui étudient pour être avocats à l'université pour vous? Y a-t-il des choses qui sont faites en ce sens?
Bien, c'est ça. Nous, dans le fond, on travaille beaucoup sur, comment dire, le bénévolat des autres et l'aide gratuite là, de différents intervenants du système de justice. On n'a pas vraiment de financement au projet Innocence. C'est un très petit organisme en termes d'administration comme tel. Ce qu'on fait surtout, c'est on va chercher l'expertise des avocats qui sont bénévoles. Donc, on a plusieurs avocats qui nous aident, dans le fond, dans différents dossiers. Donc, ce n'est pas juste moi, là, je veux être clair avec ça. Là, c'est qu'on a plusieurs avocats qui vont nous aider. Mais ce qui est intéressant aussi au projet Innocence, c'est que c'est un projet qui a été bâti à l'UQAM. Et donc, il y a un cours qui se donne à l'UQAM à chaque session et dans lequel moi, j'ai enseigné, je suis chargé de cours à l'UQAM, puis j'ai des étudiants. Donc, j'ai environ, je vous dirais, entre 9, 10 là, et 14, 15 étudiants par session qui vont nous aider dans les dossiers. Pour nous autres, ça, c'est très important parce que moi, j'ai pas le temps, par exemple, d'aller lire toutes les transcriptions d'un procès. J'ai pas le temps de faire des résumés de la preuve. J'ai pas le temps de... Mais les étudiants ont le temps de faire ça, puis pour eux, c'est une belle première, un beau premier contact, si on veut, avec la profession. Ils peuvent parler avec les clients, rencontrer les clients, éventuellement préparer, dans le fond, des demandes de divulgation, donc résumer la preuve. Et ça va m'aider beaucoup, moi ou les autres avocats qui vont travailler dans le dossier, pour justement compenser ce temps-là qu'on n'a pas justement, qu'on doit faire d'autres choses de notre vie. On doit pratiquer aussi la défense, mettons, dans mon cas, dans ma pratique générale. Donc, j'ai un 10 heures peut-être, 15 heures. Il y a des semaines que je fais ça toute la semaine, mais autrement, tu sais, ce 10 heures-là, il est important, mais j'ai peut-être 40, 50 heures de travail d'étudiant derrière moi qui me permet justement d'utiliser de façon optimale, moi, mon petit 10 heures par semaine. C'est comme ça qu'on réussit. Puis l'autre façon qu'on réussit à avancer les dossiers, c'est qu'on, dans ma pratique, j'ai beaucoup de contacts, j'ai beaucoup de gens que je rencontre, des experts, entre autres. Ben, moi, j'engage beaucoup d'experts et à un moment donné, j'ai des experts qui me disent, ben, moi, je suis intéressé au projet Innocence, je serais prêt à donner un coup de main. Fait que là, je dis, ben, on n'a pas d'argent, là, nous autres, là, pour payer des expertises. C'est pas grave, je vais le faire bénévolement. Fait qu'on en a eu, ça, des cas comme ça, des experts qui s'offrent à nous.
Et de l'autre côté, je suis disparu, Maître Saint-Jacques. Il y avait un verre de vin à l'endroit où je suis disparu, puis il y en avait un autre au bout de la table. C'est les empreintes digitales d'Audrey Pinchot qui ont été retrouvées. On pense que je suis décédé, que je suis quelque part dans le fleuve Saint-Laurent, et Audrey est la dernière personne à m'avoir vu. Elle se ramasse en prison parce qu'elle a été déclarée coupable. Elle a une tête de coupable, d'ailleurs. Mais elle dit, moi, je suis innocente de tout ça. Elle a toujours dit en cour qu'elle était innocente, qu'elle m'avait rien fait. Elle fait comment pour vous rejoindre? De quelle façon on vous rejoint, Maître Saint-Jacques?
Oui, donc vous pouvez aller sur notre site web, premièrement, qui est innocencequebec.com. Donc, vous allez avoir les coordonnées, dans le fond, pour nous rejoindre. Nous, généralement, la meilleure façon de nous rejoindre, c'est par la boîte courriel. Donc, à info en commercial innocencequebec.com. Et les gens peuvent nous écrire. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on traite les demandes, on rappelle les gens ou on leur répond. Donc, on a un groupe d'étudiants, justement, qui vérifie les courriels qui rentrent. Et éventuellement, on peut rentrer en contact. Des fois, on fait simplement répondre à des courriels. Des fois, on a un contact téléphonique ou une rencontre par visio avec les clients. Et c'est comme ça qu'on commence, qu'on amorce le processus, dans le fond, de révision. Puis, si ce n'est pas le bon recours, ben, on vous le dit tout de suite quand même. T'sais, si ce n'est pas le bon recours, on va vous diriger vers le bon organisme.
Maître Saint-Jacques, ça a été un plaisir.
Pareillement, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Passez une
Bonne
belle
journée.
fin de journée, puis passez le bonjour à Madame la juge.
Ouais, très bon.
Salut.
Bonne
Salut.
journée.
Ça doit être capoté, hein? Quand tu es un couple d'avocats, puis là, tout d'un coup, il y en a un qui devient juge.
Ça doit être spécial.
Juste, ben, exemple, du jour au lendemain, je sais pas, moi, t'es au criminel, t'es pas au civil. Puis là, ben, t'as monsieur le
tu peux
juge
pas
ou
plaider
madame
devant
la
ta
juge.
blonde, c'est sûr
Ben,
que non.
techniquement, oui, là.
Tu penses, c'est sûr qu'il y a des règles. On aurait dû demander, c'est sûr qu'il y a des règles pour ça.
Ben, je pense que non.
Parce que veux pas, t'as beau devoir être impartial. Demain matin, c'est ton chum qui plaide, puis dans ta tête, ça fait bien du sens, puis c'est
Ouais.
sûr que t'en parles à la maison.
L'avocat pourrait se récuser, effectivement. Tu veux
Mais
pas
c'est
affronter ta
sûr qu'il y a
femme.
des règles.
Non, tu veux pas affronter ta femme en cour, là.
Ben non, mais au-delà de ça, je veux dire, moi mettons, je suis accusée puis je me fais défendre ou peu
Ah
importe,
oui!
jamais je crois qu'à la maison, ils s'en parlent pas, là.
C'est clair qu'il s'en parle.
Ben voyons, on
C'est
est innocent
clair
de
qu'il
penser
s'en
le contraire, là,
parle. Ouais.
franchement.
Mais de l'autre côté, c'est ta chance d'embaucher le mari de la juge.
Ben non, mais Yann, c'est impossible. C'est impossible. J'y crois pas pour 2 cents. Voyons.
Je pense que tu as raison. Je
Ben là.
niaisais, là, mais effectivement, je pense que tu as raison comme pas pire. Hey, t'es-tu encore avec moi, toi?
Je suis encore avec toi. Toi, t'es-tu
Non.
encore avec moi?
Ouais, je trouve ça juste cruel d'avoir passé des années derrière les barreaux, puis que le gouvernement te dise non, on te doit rien. Il faut que tu poursuives le gouvernement du Québec pour t'avoir foutu en taule pendant des années, alors que tu étais innocent.
C'est une vie perdue carrément, là.
Ouais. Projet Innocence, c'est le projet dont on vous parlait dans les dernières secondes. Et l'homme que vous entendiez, c'était Nicolas Saint-Jacques, qui est vice-directeur de Projet Innocence. L'entrevue va être disponible sur l'application blvd.fm dans les prochaines minutes. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Après la pause, on jase avec le directeur de la sécurité civile de la Ville de Québec, Martin Bolduc, qui est accompagné de José Bérubé, chef coordonnatrice en sécurité civile, pour parler de la semaine de la sécurité civile et des métiers qui y sont associés. Donc, bien hâte de jaser avec eux. Restez là.
Rage Against l'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
Ah, beaucoup de monde en studio. J'aime ça voir le monde. J'aime ça faire des zooms, là. J'aime ça faire du Messenger. Mais quand
c'est
les gens se
fun,
présentent en studio, c'est le fun.
Présentiel. Hein?
On peut les voir. On peut les voir. On peut leur serrer la pince. C'est le cas du directeur de la sécurité civile qui est en studio avec nous. Il est de la ville de Québec. Son nom, c'est Martin Bolduc. Monsieur Bolduc, bonjour.
Bonjour.
Il est accompagné de José Bérubé, qui est chef coordonnatrice en sécurité civile, pour parler de la semaine de la sécurité civile et des métiers qui y sont associés. C'est du 4 au 10 mai 2025 sous le thème « Agir ensemble pour la sécurité de tous ». La sécurité civile, est-ce que c'est Est-ce que ça commence par soi, Monsieur Bolduc?
Oh, c'est une excellente question.
Ça en est une grosse pour commencer.
Ben, en fait, oui, on commence fort. Oui, c'est un niveau de préparation qui est nécessaire pour pouvoir faire face à tout ce qui peut arriver à la Ville de Québec. Donc, oui, la personne, puis je pourrais laisser José parler de la préparation qui est tellement importante,
ouais,
et tellement nécessaire pour nos citoyens puis notre collectivité là, qui se doit d'être prêt.
Oui, parce qu'on doit, on se doit nous-mêmes de veiller à notre sécurité, puis par la suite, ben on paye des taxes et impôts. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui veillent aussi sur notre sécurité. Vous êtes d'accord, Mme Bérubé?
Oui, exactement. On dit que la responsabilité, c'est une responsabilité. La sécurité civile, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, entre nous, entre les citoyens, on invite les gens à se préparer à la maison, à faire face. C'est pas obligé d'être très compliqué. Là, c'est d'avoir l'essentiel à la maison pour être capable de faire face à une panne de courant prolongée,
ouais,
être capable de sortir rapidement de son domicile si on est voué à être évacué, tout ça. Donc, ça permet à la famille aussi d'être en sécurité, d'être moins stressée quand il arrive quelque chose, puis de pouvoir être là, puis gérer la situation.
Est-ce qu'il faut refaire le plan de sécurité à la maison chaque année, réexpliquer aux enfants qu'est-ce qu'on doit faire si il arrive, exemple, un incendie je sais pas, moi, on reste dans un immeuble, puis il y a quelque chose qui se passe, il faut sortir rapidement de l'immeuble. Le point de repère que tout le monde se donne, tu sais... Moi, je suis un père de famille, je suis séparé de la mère de mes enfants. Des fois, mes enfants sont tout seuls à la maison. Je me dis, t'as peu, là, moi, je suis pas loin, je suis à 20 minutes, là, mais si jamais mes enfants ont besoin d'aide, là, puis ils sortent dans la rue, ils vont chez qui, tu sais?
Oui, c'est très important. Le parent a un rôle à jouer assurément pour déstresser vos enfants, les préparer à quand il arrive quelque chose. C'est important. S'ils savent qu'est-ce qui peut se passer et comment vous êtes préparés, bien, c'est sûr qu'un, ils vont avoir le goût de vous aider à régler la situation. Ils vont ressentir beaucoup moins de stress, puis ils vont se sentir vraiment comme fiers de pouvoir participer à ça. Nous, à chaque année, on fait de la sensibilisation aussi dans les écoles. On se promène, on donne des conférences et tout ça pour parler de sécurité civile, puis démocratiser un peu ça. Là. C'est pas juste des sinistres, il n'y a pas juste du danger, il y a des belles choses aussi dans tout ça.
Ouais, mais quand on voyait les gens de la sécurité civile débarquer à l'école, moi j'étais à Cardinal Leroy, pas loin d'ici à l'époque, il y avait la sécurité civile qui débarquait, puis il y avait les pompiers aussi, il y avait les policiers qui nous expliquaient quoi faire en cas d'incendie, exemple, quoi faire si jamais il se passe quelque chose, il y a une alarme.
Ma mère en a tellement fait avec nous autres, on était rendus au tremblement de terre. Là. On était rendus à tu te caches en dessous de
table. C'est vrai, on faisait le tremblement de terre aussi.
Ça a été poussé.
Les cadres de porte, puis les dessous table, c'est ça?
Oui, oui, tout ça. Et ma mère a eu une garderie pendant 25 ans.
Ah, ben c'est ça.
Puis avec les tout-petits de la garderie, des fois, ils faisaient des petits exercices, tu sais, pour essayer de préparer les jeunes puis de les éduquer à ce niveau-là.
C'est vraiment ça, c'est parfait.
C'est déjà ce qui se fait. Puis c'est correct de le faire parce que, n'oubliez pas, Québec, notre dernier tremblement de terre que tout le monde se rappelle, c'est celui de 1988, mais n'oubliez pas qu'on est entre Charlevoix et Kamouraska, qui sont deux zones sismiques importantes.
C'est la petite faille, oui.
Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, on n'est pas à l'abri de vivre un tremblement de terre.
Vous étiez où, M. Bolduc, vous, au tremblement de terre de 1988?
Oh, j'étais dans mon sous-sol.
Dans votre sous-sol, fait que ça a brassé. Moi, j'étais aux galeries de la capitale, puis on pensait que c'était la montagne russe qui avait débarqué parce que ça avait brassé sur un méchant temps. On était dans un restaurant, je mangeais une tarte au citron.
Il faut vraiment s'en rappeler.
Puis le tremblement de terre est arrivé. Puis là, t'as vu toutes les filles puis les gars qui travaillaient dans le maire fermer les boutiques le plus rapidement possible puis partir à courir vers les portes de sortie. Mais en 88, y avait-tu vraiment des gens qui faisaient le tour, comme vous, de la sécurité civile ou encore le directeur aussi qui se présentait dans les stations de radio pour en parler? De mémoire, je me souviens pas de ça.
Bien, c'est des messages qu'on va répéter toujours et pendant des années. La mémoire collective des gens est vraiment courte. On oublie. Tant qu'on n'a pas vécu un sinistre, on dirait qu'on est moins concernés.
Ouais.
On le voit, là, la préparation des gens qui ont vécu un sinistre est beaucoup plus là, est beaucoup plus présente, sont plus conscientisés. Je pense que les gens ont de l'intérêt à le faire, mais ça rentre dans les activités du quotidien et un moment donné, ça vient qu'on
oublie. On le met de côté, c'est ça. Exactement. On se dit que ça ne nous arrivera pas à nous autres. Ouais. C'est quoi un citoyen bien préparé? Mettons qu'on donne des exemples un peu plus concrets là, de ce que vous passez comme message.
Un citoyen bien préparé, il connaît d'abord c'est quoi ses besoins. C'est pas tout le monde qui a des animaux. Mais quand on dit ça, ben si j'ai pas d'animaux, je m'en soucie pas. Mais si j'en ai un, il faut que je m'en soucie. Fait que chaque personne a sa propre
réalité,
préparation à faire, ses propres besoins. Certains ont des médicaments, d'autres n'en ont pas. Fait que quand on dit les choses de base, là, si vous voulez préparer à rester longtemps chez vous ou à quitter rapidement, ben vos médicaments pour certains, les animaux pour d'autres, de l'argent comptant. On a une liste comme ça qu'on pourrait détailler. Puis, tu sais, sur notre site Internet, si les gens veulent en savoir plus aussi, on peut aller là, puis il y a des trucs pour dire ça. Mais chacun a une... À votre première question, c'est un peu ça. Ouais. Chacun doit se préparer en fonction de ses besoins.
Avec petit chum à maison, as-tu une trousse d'urgence?
Nous, on a des trousses d'urgence dans le char. Mon chum est un peu débile.
Oui, mais il y a ça dans le char. Mais est-ce qu'il y en a une dans la maison?
Non, je mentirais de te dire qu'on a un coin fait là, pour s'il arrive quelque chose.
Moi, j'en ai toujours eu une dans la maison.
Moi, j'ai des plans.
Jamais dans ma voiture. Puis là, je partage ma vie avec une infirmière clinicienne qui, elle, a toute sa trousse. Puis elle m'a acheté une trousse à moi. C'est un cadeau de Noël qu'elle m'avait fait. Puis il est dans mon véhicule. Puis si un jour j'en ai de besoin, mais je sais exactement où elle est, cette trousse-là.
Ça, c'est une excellente idée. Hein. On cherche. Ça vient qu'on ne sait plus quoi donner pour Noël. Là, mais une batterie pour charger nos appareils. Ce qu'on dit aux gens, c'est important de rester informé en situation d'urgence. Donc, si vous installez une génératrice, on branche le routeur sur la génératrice ou sinon, on prend nos appareils cellulaires. Puis, l'autre chose, c'est que... pardon.
C'est bien.
Oui, c'est ça. Dans le sens... Puis les trousses, là, on pense toujours que c'est un sac à dos rouge de sécurité. C'est pas juste ça, là. C'est comme Martin disait, d'avoir ce qui est essentiel pour vous. Un peu de nourriture, un peu d'eau potable. Puis même des jeux pour les enfants dans la trousse d'urgence, c'est important. Si c'est long, c'est important de les divertir aussi.
Des radios à piles, c'est important.
Qu'est-ce
des radios à piles. Avez-vous encore des radios à piles?
On a une, nous autres, à maison.
Moi, j'en ai une mini qui est dans ma trousse d'urgence. Mais en même temps, ce cadeau-là de trousse d'urgence, tu démontres juste à la personne à qui tu donnes ton cadeau que tu tiens à elle.
Mais oui, que tu l'aimes. Exactement. Qu'est-ce qui rentre dans la sécurité civile?
Si elle a fait disparaître, ben là, tu peux savoir ce qui se passe.
Oui, c'est ça. C'est putain à toi. Qu'est-ce qui rentre dans la sécurité civile? C'est-tu... parce que c'est une drôle de question, là, mais moi, mettons, j'ai pas de plan là, ou d'endroit ou d'affaires ramassant quelque part chez nous. Là. Mais moi, il y a toujours des plans. Là. Si le feu pogne, par quelle fenêtre je saute, par quelle... T'sais, on dirait que des fois, je me couche le soir, j'arrive pas à dormir, je deviens un peu débile. Là, si quelqu'un rentre chez nous aussi. Mais qu'est-ce qui entre dans la sécurité civile? C'est une drôle de question, mais tout ce qui est infraction, là, les gens qui rentrent chez vous, ça rentre-tu là-dedans? Ou on parle vraiment juste des feux, des tremblements de terre et compagnie?
Bien, la sécurité civile a de multiples facettes, mais on ne touche pas tellement la sécurité physique des lieux. On parle plus de sécurité pour partir. Ou demeurer.
Hein?
On
et est de prévenir.
Okay. On est plus dans ce mode-là. On n'est pas tellement dans le mode de préparation contre une intrusion.
OK, OK.
Mais...
je pousse trop loin mes réflexions.
Oui, mais votre réflexion de dire par où je sors en cas d'incendie, c'est une réflexion que tous et chacun, je pense, on doit se poser comme question, pas juste quand on est à la maison, mais aussi quand on est au travail, entre autres.
Qu'est-ce que ça fait dans la vie un directeur de la sécurité civile à la Ville de Québec? J'imagine que vous n'allez pas au cinéma voir des films post-apocalyptiques, là, parce que là, vous allez paniquer. Là.
Non. Bien, écoutez, ce qu'on fait là, en sécurité civile à la Ville de Québec, c'est qu'on travaille essentiellement dans trois axes.
Ouais.
On travaille dans ce qu'on appelle le « avant », en préparation, en prévention. On fait une nomenclature de nos risques sur notre territoire. Hein, on regarde ça. Après ça, on fait de la sensibilisation citoyenne.
Ça peut être les rivières à surveiller, les plans d'eau à surveiller.
Et on fait tout ça, effectivement, dans le avant. On surveille, on se prépare, on fait des plans. Et c'est dans le niveau avant. Pendant, si on a un sinistre ou une crise, bien là, on va se mobiliser. On va mobiliser les acteurs de la ville, on va se mobiliser comme sécurité civile. Puis pour le faire, bien, il faut s'assurer qu'on ait nos bons plans et qu'on prenne tous nos partenaires internes et externes pour bien coordonner cette intervention-là.
Mais est-ce que c'est comme de l'ingénierie de combat, c'est-à-dire que vous êtes là pour, advenant le cas où il y a des rivières qui débordent, bien, vous êtes là à la coordination de tout ça avec les policiers et les pompiers?
Oui, on fait. C'est un grand travail de collaboration, la sécurité civile. Seul, on fait des choses, mais on les fait beaucoup mieux quand on les fait en collaboration avec nos partenaires. Puis le dernier volet, c'est le après.
Ouais.
Hein, qu'est-ce qui se passe quand on veut se rétablir suite à un sinistre, suite à une crise? Bien, c'est important, ça aussi, de s'assurer qu'on revient à la normale le plus tôt possible. Quand je dis à la normale, des fois, c'est retour au mieux. Quand on reconstruit pour pas que ça réarrive. Donc, on est dans ces trois axes-là. C'est le quotidien d'un directeur de sécurité civile, c'est ça. C'est de préparer sa ville, préparer ses citoyens à intervenir, bien intervenir et se rétablir rapidement.
Et pour ce qui est de la coordonnatrice, que ça fait quoi une coordonnatrice au D2D en sécurité civile?
Oui, exactement. Nous, on a un volet terrain, opération. On est une équipe de 5 coordonnateurs terrain. On va en soutien aux citoyens qui vivent des sinistres sur le territoire, que ce soit des incendies. Nous, on fait la prise en charge, la coordination des gens. Quand on vient de vivre un feu, on ne sait pas trop où aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, on est en partenariat avec la Croix-Rouge pour la prise en charge des citoyens. On les reloge de façon temporaire.
Vous arrivez comme une bouée de sauvetage, là. La personne vient de voir son immeuble incendié. Mm-hmm. Du jour au lendemain, tu ne sais pas où aller. Bien là, vous arrivez puis vous dites, voici les organismes que tu peux aller, où tu peux aller.
Exactement. Sur le terrain, on vient en soutien. Le service d'incendie, hein, eux, vient vraiment au combat du feu. Les policiers viennent sécuriser le périmètre et nous, on vient en soutien aux citoyens. C'est vraiment notre priorité, la vie avant tout. Puis on les accompagne là-dedans, autant des rediriger vers leurs assurances que les accompagner avec leurs animaux sur le terrain. Quand on veut un incendie, on sort avec nos animaux, on sort avec nos enfants. Donc, on est vraiment là pour faire de la prise en charge, de rassurer, de déstresser et d'accompagner. Là.
Ouais, puis le volet psychosocial, hein, les stress que ça crée chez les gens, là, ça, on est là-dedans aussi. Parce que quelqu'un qui vit un sinistre, quelqu'un qui vit un incendie, physiquement, il se fait extraire de chez lui, mais mentalement aussi. Ça crée un stress. Puis c'est important de le considérer dans le travail qu'on fait en 2025, parce que tu sais, on évolue en sécurité civile, puis maintenant, ben on s'assure que nos gens, nos citoyens, notre collectivité.
Je regardais les chiffres qui étaient disponibles. 15 aléas d'origine naturelle ou anthropique différents, 175 épisodes d'inondations à la grandeur du Québec, 450 tremblements de terre par année.
C'est fou, hein?
Ben moi, j'ai une petite application, puis moi aussi, j'ai mes côtés freak, là. je suis sur mon téléphone, puis j'ai une application, et à tous les jours, je reçois des notes de petits tremblements de terre dans le secteur de Charlevoix, principalement, là.
Fait que vous restez toujours alerte. Des glissements de terrain, il y en a eu plus d'une centaine en 2024. Mm. Et il y a une moyenne d'à peu près, au Québec, une vingtaine de tornades. Donc, vous êtes constamment en alerte. Puis ça, c'est sans compter les feux de forêt aussi. Mais exemple, quand il y a le Festival d'été de Québec, est-ce que vous avez un plan, advenant le cas où, je sais pas, moi, il y a un orage majeur, puis là, il y a des éclairs, puis je sais pas, moi, il y a une catastrophe. Là,
le feu qui...
Le feu pas.
Bien, écoutez, nos services d'urgence se dressent des plans. Nos services d'urgence sont excellents à la Ville de Québec.
Ouais.
Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient encore une fois dans la collaboration avec eux pour planifier, préparer certains aspects et surtout les aider. Les aider en prenant charge de certains aspects de leur travail, puis on s'aide dans ça, mais c'est principalement nos services d'urgence qui gèrent les plans de sécurité pour les grands festivals.
La sécurité civile, est-ce que ça a toujours existé depuis que les villes ont été mises en place au Québec?
Ah, c'est notre volet historique de notre exposition. Écoutez, il y a eu une évolution importante de la sécurité civile. Puis si vous voulez plus de détails, on pourra en parler. Mais essentiellement, on avait de la protection civile, on a eu de la défense civile en temps de guerre.
C'est vrai, oui.
On a eu des... on avait, dans notre exposition, on le voit très bien, là, on a des bunkers qui avaient été, puis les gens... Il y a eu plein de situations qui ont fait évoluer aussi vers la sécurité civile au Québec, là, qui a été évolutive. Mais à la Ville de Québec, on a été un des premiers bureaux à se mettre en place là, au tournant des années 2000.
Vous parlez de l'exposition. Les gens ne savent peut-être pas c'est quoi la fascinante histoire de la sécurité civile.
Oui.
C'est mis en place dans le cadre, en fait, de la semaine de la sécurité civile. Pouvez-vous nous en jaser un peu plus?
Ben oui.
Oui, exactement. À la Ville de Québec, on a plusieurs structures sur le territoire, là, dans les places publiques, dans les parcs, qui nous permettent d'afficher, de faire des expositions. On a décidé de développer ça pour un peu faire connaître la sécurité civile, le rôle. C'est 24 panneaux qui relatent l'histoire de la sécurité civile à la Ville de Québec. Justement, on parle de la défense civile, des exercices, même dans le temps de guerre. On faisait des exercices nucléaires à la Ville. On avait même des sirènes d'alerte qui étaient installées à différents endroits.
Des sirènes d'alerte advenant le cas qu'il y avait un danger imminent. Ça sonnait.
Il y avait des sirènes sur les écoles primaires des quartiers. Je ne sais pas si tout le monde en avait, mais moi, dans mon quartier, j'étais jeune, il y avait des tests à l'occasion de sirènes d'alerte sur mon école.
Je me souviens pas de ça. Je me souviens des vieux films de guerre où, effectivement, temps, avant les bombardements, il y avait des sirènes qui partaient.
Mais je savais pas
qu'on, je savais pas qu'on avait ça à Québec.
Mm-hmm. Ouais, c'est au fur et à mesure qu'il y a eu des événements à Québec. Attends, on a vécu des pandémies, on en a vécu plein, diphtérie, tout ça, choléra même, qui a été quand même très impactante pour Québec. On a vécu des grands incendies.
La grippe espagnole.
La grippe espagnole. Puis donc, quand est arrivée la COVID, c'était des choses que la ville avait déjà vécues. On a eu des incendies, des glissements de terrain du côté du boulevard Samuel de Champlain. On le voit, là, maintenant, ils ont fait énormément de travaux pour atténuer ces risques-là. Il y a même des... Vous irez voir l'exposition. Présentement, elle est à Place Jean-Béliveau pour le mois de mai, mais il y a même des cabanes nucléaires de l'armée qui avaient été prêtées sur les plaines d'Abraham pour reloger des sinistrés suite aux incendies. On a vraiment découvert des trésors extraordinaires au service des archives. On a eu des belles collaborations. On s'est fait prêter des photos aussi de la banque, de la Bibliothèque nationale de Québec là, sur des événements qui ont eu lieu à Québec. Des inondations, des pannes de courant prolongées, tout ça. Donc, c'est fascinant découvrir tout ça.
Question qui était venue par texto. Est-ce que vous vous occupez de l'eau potable à Québec? Est-ce que c'est la sécurité civile qui s'occupe de l'eau potable?
Ben, ma réponse va être plate. L'eau potable est la responsabilité du traitement de l'eau, de l'ingénierie et des différentes unités administratives chez nous. Mais quand il arrive une situation, comme il s'est arrivé cet été, une situation où on avait un bris sur un... Bien là, c'est là que la sécurité civile vient faire un rôle de coordination, de collaboration, encore une fois. On rassemble les unités administratives qui sont directement touchées et on prend nos experts. Parce qu'en sécurité civile, on n'est pas expert. Moi, je ne suis pas un expert des rivières. On a des experts à la Ville des Rivières. C'est eux que je me fie sur eux. On se fie sur la science, puis on se fie sur leurs connaissances. Alors nous, notre rôle, c'est de coordonner.
La vie d'ébullition d'eau, est-ce que c'est vous qui s'en occupe?
La vie d'ébullition, c'est le spécialiste de l'unité administrative qui va nous dire... On a besoin de faire un avis d'ébullition d'eau et au Bureau de sécurité civile, nous avons le logiciel qui fait l'avis d'ébullition d'eau.
OK. Pour ce qui est de l'exposition, est-ce que tout est gratuit?
Oui, c'est gratuit. Présenté durant le mois de mai, c'est ça, sur Place Jean-Béliveau. Et va se promener ensuite, là, Parc Chauveau, Parc Étienne-Parent au courant de l'été. C'est gratuit, c'est accessible. C'est une belle activité à faire en famille aussi pour informer les enfants, mais aussi découvrir qu'est-ce qui s'est passé déjà dans la ville. Là. Souvent, on dit c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Bien là, vous allez apprendre plein de choses là, sur... différentes histoires.
Puis avec les enfants, justement, sur le site de la ville, y a-tu des trucs qu'on donne aux parents sur comment peut-être éduquer leurs enfants ou diriger leurs enfants pour transmettre cette information-là?
Oui, sur le site de la Ville de Québec, dans la section sécurité civile, on a une section se préparer, s'informer. On a aussi une zone jeunesse. On a développé une bande dessinée là, qui permet, avec la famille, pas de panique, qui permet aux gens là, de pouvoir découvrir aux enfants. On a un jeu aussi avec notre mascotte, Pif le proactif, qu'on sort là, à différents endroits dans la ville. Plusieurs l'ont déjà vu, un renard là, qui est très futé. Donc, on a une zone jeunesse, les parents peuvent aller là. Puis même, moi, je leur suggère souvent, là, votre trousse d'urgence, là, je sais que vous n'avez pas le temps de la faire, mais préparez ça un samedi matin, un chercher-trouve avec les enfants dans la maison. Hey, va me chercher une lampe de poche, va me chercher toutes les informations, vous rassemblez ça dans un bac. Ça fait une belle activité familiale, ça vous permet de parler de sécurité civile, puis ben, ça vous divertit les enfants le samedi matin en prenant votre café. Là. C'est pas à vous à la faire, votre trousse.
Combien de personnes travaillent à la sécurité civile? Sais-tu dans quel champ d'études qu'on étudie pour être à la sécurité civile?
Ben écoutez, c'est un domaine qui a pas il y a beaucoup de formations qui existent qu'on peut prendre un peu partout dans différents et comme la sécurité civile a plusieurs facettes, ben on a besoin de plusieurs aussi comment je pourrais vous dire, plusieurs connaissances, plusieurs expériences. Fait qu'à la Ville de Québec, c'est comme ça, là, on a des gens avec différentes expériences. On voit aussi se développer hein, une sécurité civile, de la formation collégiale, on a des cours universitaires ce développement-là est en cours, là, puis je sais que justement, les écoles collégiales sont en train de regarder pour faire un cours collégial en sécurité civile, ce qui fait que ça roule. La sécurité civile est actuellement dans une bonne position, je pense, pour se développer.
Puis vous n'avez pas répondu à ma question. Tantôt, quand je vous ai parlé du cinéma, les films post-apocalyptiques, là, ça vous stimule?
Moi, je les écoute. Oui, ça m'intrigue. Il y a différents documentaires qui sont sur un peu les gens qui se préparent et tout ça, faire face aux différentes catastrophes. Moi, j'aime ça parce que disons qu'on retient 10% de ça, c'est déjà bon pour sa préparation personnelle.
Ben oui.
Mais en même temps, il faut faire attention à certains acquis qu'on se dit, dans le film, ils ont fait ça, puis c'est bon... se mettre en avant de la... Non, c'est peut-être pas toujours bon de se mettre en avant. De...
Ça a été un plaisir de vous rencontrer dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile et des métiers qui y sont associés. Madame Bérubé, ça a été un plaisir.
Merci.
Vous êtes chef coordonnatrice en sécurité civile et Monsieur Bolduc, Martin Bolduc, qui est le directeur de la sécurité civile de la Ville de Québec, un gros merci d'être passé.
Merci à vous.
Merci. As-tu votre première présence à radio?
Oui, tout à fait.
Vous,
oui,
êtes, vous étiez exceptionnel.
Impeccable.
Ah. Pareillement.
Merci à vous. On vous invite à aller visiter notre exposition tout le mois de mai. Merci pour votre accueil.
C'est dans le secteur du Centre Vidéotron à la place Jean Béliveau.
Exact.
Audrey, on se laisse là-dessus. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. On t'écoute à 14h. Est-ce qu'il se passe sur la, quelque chose sur la route actuellement?
Rapidement, c'est rare qu'il y ait de la circulation à faire dans l'open mic, là, mais présentement, sur la 20 direction ouest, il y a un bon ralentissement considéré dans le coin de Taniata, si vous y êtes. Plus de détails dans Marceau le midi, j'imagine. Donc, 88-971-102, texto.
Pascal s'en vient dans les prochaines minutes, mais pour l'instant, les trois accords grand champion sur Boulevard.